Pop-popien, pop-popien, et tous les autres aussi, bonjour. Tiens, quelque chose qui ne court pas les rues dans cette époque où tout le monde chante, un peu comme une fête de la musique qui ne s'arrêterait jamais, ce qui, ses propos n'engagent que moi, correspond à une définition parfaite de ce qu'on appelait les cauchemars psychomoteurs à l'époque du Gaufret. À une époque où tout le monde chante, disais-je donc, il est bon, quoique trop rare, de tomber sur une de ces voix qui a sur vous le même effet que la flûte de la célèbre légende allemande qui hypnotisait rongeurs et enfants en les attirant irrésistiblement vers un sort, hélas, fatal. Attention, ce n'est pas ce qui risque de vous arriver, bien au contraire, si vous écoutez la musique de notre invité Rover, un artiste dont le nouvel album, Eskeller, tiens, c'est de l'allemand, dégage une puissante beauté et une prégnante mélancolie tout automnale, parfaite pour les premiers frimas que nous ressentons, en tous les cas dans le Nord, depuis ce matin. Rover est un garçon à part, qui se soucie assez peu des modes, des tendances ou de cette frénésie contemporaine à chanter coûte que coûte. Il suit son chemin, un chemin surprenant, c'est normal hein, quand on s'appelle Rover, et continue à creuser le sillon souvent génial de sa musique. Et son chemin l'amène aujourd'hui eh ben chez nous. Allez, en voiture Simone, enfin Rover, pop pop pop, c'est parti.
France Inter, pop pop pop, Antoine de Caunes.
Aujourd'hui, je suis l'invité d'Antoine de Caunes et je m'en réjouis.
Nous en réjouissons tous les deux. Qu'est-ce qui vous réjouit d'être notre invité aujourd'hui?
Je pense d'abord le plaisir de vous rencontrer, vraiment, pour la deuxième fois dans ma vie. Ouais. Et puis de venir dans cette belle maison de la radio. Je le dis sans
dégagerie.
Oui, non, ouais. C'est un vrai plaisir. C'est une chance de venir parler de sa musique, de venir écouter d'autres musiques. J'ai le bonheur de venir à Paris. Je suis beaucoup à Bruxelles, donc arriver à Paris a toujours un sens de la fête, un sens de l'excitation qui vient dans le Thalys.
Et j'ai alors moi c'est ce que je ressens quand je vais à Bruxelles.
Oui.
Je le sens moins en arrivant à Paris. Mais
ça si m'est passé un peu moi. Non, j'ai toujours ce bonheur aussi, mais je sais pas. On sent quand les vibrations sont, les planètes s'alignent. Et là, je sens qu'on est entre de bonnes mains.
Donc vous allez bien.
Je vais bien, oui.
Bien, c'est un bon démarrage. Je pose la question parce que vous vous lancez dès vendredi prochain dans une tournée de 60 dates. Vous commencez par un concert à Tremblay-sur-Mauldre avant le festival Baiser Volé de Saint-Malo le lendemain. Vous serez ensuite le 26 à Paris pour Paris-Paradis, le 2 octobre à Oigny, à Nantes le 6, à Fouesnant le 7, à Morlaix le 8, à Évreux le 9, à Nancy le 11. Vous êtes prêt, Robert? Non?
Au CHU, devant le...
Non, mais vous êtes prêt? Vous savez ce qui vous attend?
Oui. Je commence à avoir le luxe de l'expérience et de savoir m'y préparer. C'est un mélange d'excitation, un peu de savoir qu'on va franchir une montagne, on va vivre des expériences assez folles, la tournée. offre à la fois des sensations physiques, émotionnelles, artistiques. Je sais qu'à chaque fin de tournée, j'ai vers 21h toujours les jambes qui tremblent et l'envie d'aller jouer. Et c'est toujours la cruauté des fins de tournée, c'est de se retrouver chez soi comme un idiot et s'ouvrir une bière alors qu'on va pas jouer. Et
surtout, vous allez passer d'une extrême à l'autre puisque vous étiez tout seul dans votre cave bruxelloise pour illustrer cet album.
Oui, c'est
nous
vrai.
Allons parler. Eskeller, 16h08, je crois, à la scène.
Oui. On l'a dans le coin de la tête en fait. Quand je fais des disques. Maintenant, j'ai quand même la soupape de savoir qu'il va exister en public. Alors, la chance, c'est que j'ai la chance d'avoir autant de dates pour aller l'exprimer, le jouer fort devant les gens et le partager. Mais c'est très cohérent, c'est comme les saisons. Je sais que l'hiver de la création et de l'enregistrement appelle vers le printemps où on va vraiment se mettre en lumière et aller jouer les chansons et faire vivre le disque au sens propre. Donc tout ça se complète et se nourrit.
Et si vous allez vous balader, ce qui tombe bien pour un rover, puisque rover, c'est celui qui erre. Hein.
Oui.
Puisque vous avez passé votre enfance à New York, vous avez vécu au Japon, aux Philippines, au Liban, vous êtes viscéralement attaché à la Bretagne et vous avez enregistré votre album à Bruxelles. Donc Rover, en fait, c'est un surnom.
C'est un surnom, oui. Je sais pas, c'est un... Ça avait beaucoup de sens au début, de par sa signification, effectivement, le vagabondage et l'aspect très romantique aussi de ce nom. Mais je sais que ça m'a permis, au même titre que choisir un lieu pour enregistrer, un nom de projet comme celui-ci, maintenant qui me colle au basses depuis 10 ans, me permet d'y mettre les chansons qui lui vont bien, en tout cas. Et c'est une espèce d'étiquette sur un sac à chansons comme ça. Et je m'y sens bien. Je suis encore très confortable avec ce pseudonyme artistique.
Et qui me colle au basque, vous dites ça, à cause du rugby sans doute. Alors, Rover. Aujourd'hui, vous venez donc nous parler de Eskeller. Eh bien, il est 16h09. Votre troisième album qui signifie cave à glace en allemand. Hein, un nom choisi pour sa phonétique. Et ben, pour le reste, nous allons en parler dans un instant. Pour le moment, on écoute un extrait de cet album avec ce morceau d'ouverture, To This Tree. C'est un morceau signé Rover, notre invité dans Pop 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 aujourd'hui, et c'est l'ouverture de son troisième et excellent album, Eskeller. Il est 16h13. Ce qui frappe, c'est le côté intemporel, mon cher Rover, de votre musique en général. Et vous avez cette volonté, j'irais même jusqu'à dire cette ambition, de faire une musique qui résiste au temps.
C'est vrai. De plus en plus, j'en suis le témoin moi-même de. Je ne sais pas si c'était conscient au début. Ça l'est devenu en tout cas. J'ai vraiment une envie de faire en sorte. Moi, j'ai une.
Comment est-ce qu'on juge de ça?
Je ne sais pas. C'est compliqué. Je pense que c'est une grande part de des décisions artistiques appartiennent à cet instant où on choisit quelque chose qui s'imprime dans le temps et dans notre époque, où on fait le deuil de vouloir être à la mode ou d'être peut-être avant-gardiste à un endroit, et puis on s'équipe d'outils aussi qui ont une intemporalité, c'est-à-dire le choix des instruments, le choix de nos références aussi. Moi, mes références sont toutes assumées. Je préfère le son des batteries des années 70 que ceux des années 90 à un endroit. Mais peut-être que mes goûts vont changer. Peut-être que les choses deviennent classiques avec le temps.
Mais on vit une époque où la musique s'est considérablement industrialisée. Hein. C'est un euphémisme. Mmh. Vous savez que l'artisanat, c'est la première entreprise de France.
J'ignorais,
j'ignorais. J'ai appris en faisant.
C'est un scoop. Ce qui est sûr, c'est que moi, je me rends compte de plus.
Vous voulez pas rentrer dans ce moule industriel, dans ce processus de fabrication auquel aujourd'hui tout le monde se sommet de plus ou moins bonne grâce.
C'est très lié aux outils que l'on utilise. Moi, j'ai rien contre les ordinateurs, mais la diversité des options qu'offre un ordinateur empêche les accidents et empêche le hasard. En fin de compte, moi, je me rends compte que me mettre moins d'instruments me permet d'en créer des nouveaux en mélangeant deux. C'est ce qu'on faisait dans les années 70. Hein. Tout ce qu'on aime en musique est né de hasard et d'accident. Donc, le fait de rendre les choses plus difficiles, les rendre plus simples, bizarrement.
La pop culture, vous baignez littéralement dedans, Rover, parce que vous citez souvent, vous venez de le faire encore à l'instant, les Beatles, les Beach Boys, Dylan, Bowie, Lou Reed, Gainsbourg. À quel moment la musique a-t-elle cessé de vous parler aussi directement? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une bascule, un moment où vous avez dit hop, après ça ne m'intéresse plus ou moins?
Ma première réponse spontanée, ce serait de dire que j'ai pas fini de creuser certains sillons qu'ont exploré les Beatles, les Beach Boys, même Bowie, un endroit dans son excentricité. Peut-être parce que je suis un mauvais élève et je suis assez lent, en fait. Peut-être que certains y arriveraient en 24 heures. Moi, j'ai toujours ce même plaisir à réécouter les morceaux et à les sentir différents en fonction de où je les écoute et de sentir leur multi-reflet, leur boule à facettes, en tout cas. Je sais pas si c'est peut-être une histoire de lenteur, mais en tout cas, c'est un plaisir qui ne s'est pas essoufflé. Ouais. Donc, tant que j'ai pas quitté cette espèce de puits à inspiration et à bien-être dans l'écoute. Après, j'écoute des choses plus contemporaines, évidemment, mais spontanément, mon corps va mettre des vinyles, va mettre des chansons de...
Vous avez un rapport très particulier à vos disques. Vous parlez même de paternité. Vous êtes extrêmement méticuleux, attentionné à leur égard, mais vous êtes aussi très admiratif des accidents. Par exemple, vous citez Nirvana, le solo de Kurt Cobain sur The Man Who Sold the World, souvenez-vous. Qui était ce qu'on appelle simplement un pain.
Un pain au raisin, oui.
Un pain au raisin, au chocolat, comme vous voulez. Une imperfection technique est devenue un élément à part entière du solo. Vous aimez donc quand ça dérape?
Je dois être bizarre, mais moi je l'attends. Je l'attends, je sais quand il va arriver. Et à la fois, il me fascine et me dérange. C'est irréproductible, c'est inécrivable même sur une portée. Il y a quelque chose qui appartient à l'instant, à l'émotion qu'a vécu.
C'est un pain, oui.
Ouais, un vrai pain. Et c'est noble, c'est de l'artisanat, le pain, la boulangerie, le... Voilà, ma blague du jour, ça serait celle-là. Moi, personnellement, je m'arrêterais là.
On est d'accord que l'absence de dérapage dans la musique aujourd'hui, ça chagrine finalement.
Alors moi c'est plus que ça me chagrine, c'est que j'en suis allergique. Je supporte plus de devoir percevoir la perfection informatique dans les disques. Après, il y a certaines musiques qui le supportent très bien, mais pour celles que je fais, c'est vouloir peindre à l'huile et me donner une souris pour le faire, le tableau. Non, il me faut de l'huile et une toile. Et un pinceau, c'est une histoire d'outils. Donc après, il faut remettre dans le contexte les choses. Je pense que pour moi, la perfection, mais ça m'appartient, elle réside dans l'imperfection. Ouais. C'est vraiment là. C'est comme ça que j'aime les gens. J'aime leurs défauts plutôt que ce qu'on dit de chez eux qui sont leurs qualités. J'ai ça avec mes disques. Je me souviens de ce qui m'irritait au mix et des choses que j'ai pas pu refaire. En fin de compte, 3-4 ans après, c'est vraiment ce qui me plaît dans le morceau et ce qui en fait sa singularité.
Ouais. Et c'est pour ça que dans Eskeller, 16h18, en l'occurrence, vous avez privilégié les instruments. Ça y est, vous l'avez?
Ça y est.
Ouais. Vous avez privilégié les instruments anciens.
C'est les instruments anciens qui m'entourent. Ouais. C'est superbe. Non, encore une fois, c'est le choix des outils. Le lieu s'est prêté à pouvoir réunir enfin tous mes instruments qui étaient à droite à gauche. Alors j'avais des guitares chez des copains, des consoles qui étaient. Quand on est en tournée, on est toujours sur les petites annonces. On sait qu'on va dans une région, alors on épluche la région pour acheter un Casio à 40 €, un machin, des choses dont on se sert jamais. Là, j'ai pu tout mettre dans 300 mètres carrés. Je me suis retrouvé avec trop de matériel, donc j'en ai vendu la moitié parce que la moitié marchait pas. Mais je me suis rendu compte qu'il y a même que j'avais un attrait pour les instruments anciens. Effectivement, les vieilles guitares, les choses qui ont des âmes. Et ça m'inspire, ça me nourrit, parce que certainement il y a une imperfection, il y a des égratignures dessus.
Et on va rentrer dans le détail de cette histoire de la fabrication de cet album et de ces instruments qui ont une âme, de ce studio si particulier. Ce sera dans un instant avec Charline Roux qui nous rejoindra juste après Wasted Love. C'est un autre extrait de ce troisième album.
Holding on to faded stories, I mimic away the pain. Sorry's a wasted love. How many a wasted love? I heard you say that things were falling out. Maybe all we need was talking. Wasted love. How a wasted love.
Antoine Decaune. Pop.
Et Charline Roux qui arrive d'ailleurs au volant de sa Tesla. Charline Roux qui n'a pas le permis, ça tombe bien, la voiture se conduit toute seule. Charline Rover.
Charline. Ça y est, on est parti sur un oui. Festival de blagues de type automoto.
Non, c'est fini. Rover, tout ça, c'est fini. Bon. C'est à vous.
En tout cas, je suis ravie, enfin, un invité qui me permet de justifier de ma LV1, donc Warum sprich du fließen Deutsch?
Oh, bah, ich habe in Deutschland gelebt, gewohnt.
Bon, je vous laisse.
Il a vécu en Allemagne, je veux savoir pourquoi il parlait couramment allemand, en fait. C'est très important. C'est la seule phrase que je ferai. Hein.
Pareil.
C'est du Google Trad.
Moi, je connais que ça aussi.
Alors, prétexte fallacieux, hein, pour revenir sur le titre de cet album, Eiskeller, qui renvoie au lieu où vous avez enregistré, dans une ancienne glacière, vous le disiez, une glacière bruxelloise, pas le lieu le plus confortable, 250 mètres carrés enfouis sous terre. Faut pas être claustrophobe, faut pas être trop à l'affût de la lumière du jour. J'imagine comment vous êtes venu cette drôle d'idée et quel effet, vous parliez tout à l'heure d'imperfection, mais là en l'occurrence ce déséquilibre a-t-il eu sur la tonalité de l'album?
Alors le hasard a fait que j'étais à un concert de krautrock à Bruxelles dans un bar et après je discutais avec les musiciens, je leur disais que j'étais en pleine préparation d'un troisième disque et que je cherchais un lieu à Bruxelles. Ils m'ont parlé de ces glacières de Saint-Gilles, en fait, où il y avait des ateliers à vendre, à louer. Et j'en ai visité un le lendemain, et c'était le plus grand, le dernier qui restait. Et
250 mètres carrés.
250 mètres carrés. Immense pièce où on stockait donc réellement la glace, les pains de glace, comme ça, avant l'arrivée du frigo chez les gens. Et c'était, donc une pièce très industrielle. Quel impact ça a eu? Je pense que ça, j'ai mis 6 mois à comprendre à quel point ma démarche était à la fois absurde et très importante pour moi. Là, c'est plus d'un point de vue personnel en tant que homme de 40 ans, en tant qu'artiste, c'est de se retrouver dans un lieu qui est plus fort que moi, plus grand, où l'ego s'en va, l'internet s'en va, le téléphone s'en, tout s'en va, il reste mes instruments qui sont ce qu'ils sont et que j'aime énormément, mais qui, avec qui j'ai tissé une relation au quotidien. Donc au début, c'était assez violent d'y aller parce qu'il fait effectivement entre 8 et 10 degrés. Ouf. On n'y est pas bien, on n'a pas il n'y a pas l'eau courante, il y a deux prises qui grésillent, bon, voilà, il y a trop de réverb. Il y a le temps pendant plusieurs mois de se poser plein de questions.
Et c'était pendant le confinement, c'est est-ce que vous avez vécu un enfermement au carré ou
c'était à cheval? Alors, j'ai commencé avant le confinement, j'étais à la mode et après tout le monde m'a rejoint dans cette espèce de
un précurseur.
Ce qui me stupéfie, Rover, c'est qu'on parle donc de cet endroit sous terre, 250 mètres carrés, un vide glacial, aucun réseau, pas de communication, et puis surtout solo, mais solo des deux côtés de la musique, devant et derrière la console.
Oui, mes deux premiers disques, il y avait toujours un ingé son en studio, et puis c'était des studios dits classiques, où c'était fait pour enregistrer de la musique. Là, j'ai effectivement fait à la fois le travail d'ingé son, de même commander du matériel pour en construire mon home studio, ou en tout cas ce studio un peu éphémère. Tout était un peu sur des tréteaux, j'avais aussi envie de pouvoir plier assez rapidement, il y avait une... Un peu une démarche presque artistique dès le début de pouvoir, j'allais dire, investir un lieu et puis faire un disque et m'en aller, le laisser comme il était. Donc oui, il y avait toute la technique à voir et ça j'ai découvert, j'ai acheté 2 livres, j'ai rien compris. J'ai ouvert, c'était que des graphiques, de courbes, de sons, j'ai fait semblant.
Allemand.
C'est que en allemand, évidemment, moi je dis que de l'allemand donc, dans la langue. Donc après, au bout de 2-3 terrasses où je faisais semblant de lire ces livres où j'ai rien compris, je m'y suis mis, j'ai essayé, je fais des essais, c'est les oreilles qui ont parlé et ça a été très long par contre, mais je pense que j'en retiens autant de satisfaction d'avoir pu mettre les mains dans le moteur comme ça et de me déloger aussi en tant qu'artiste, c'est-à-dire que d'avoir fait tout ce travail en amont avant une prise de guitare me permet. Je suis très bavard,
mais est-ce que du coup le titre Cold and Tired qui figure sur l'album a valeur de témoignage?
Oui, c'est ça aurait pu être le titre de l'album, clairement. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que ce titre, il a été fait tard le soir. Je travaille de temps en temps la nuit, mais pas tout le temps. Parce que d'abord, le lendemain, on est un zombie. Et puis c'était un lieu assez effrayant le soir. Je ne dis pas pour me faire passer pour un héros.
Non,
mais
j'imagine.
Il y a des courants d'air, il y a des bruits qu'on n'a pas envie d'entendre. Il y a des choses qui frappent à la porte. Alors comme c'est très grand, j'éclairais pas tout le lieu et je mettais des lampes de chevet au sol, donc je faisais des puits de lumière selon les postes d'instruments, mais tout le reste de la pièce je m'en servais pas, donc je mettais juste un micro loin pour avoir une réverbe naturelle. Mais je sentais quand je faisais des prises au casque, le micro prend tout et il y avait 200 mètres carrés derrière moi, dans le noir absolu, en sous-sol, en fin fond de...
Et le paradoxe, c'est que cette musique est tout sauf froide et fatiguée.
Ouais, mais ça,
elle est au contraire chaude, intime.
Je le prends comme un compliment parce que ça a été un témoignage de moi qui lutte aussi contre ce froid et cet aspect très austère du lieu. Je pense que j'étais le poêle à bois du lieu, quoi. C'est-à-dire que de faire de la musique qui mettait de la lumière m'a drivé un endroit.
Et c'est donc un album dont vous dites que vous pouvez indifféremment et intégralement le jouer soit au piano, soit à la guitare.
Oui, moi j'ai... Ouais. Ça fait récit de prodige. Non, mais c'est pas
si courant. C'est pas si courant.
Et au violon et à la flûte.
Oui,
c'est vrai que c'est pas si courant. Je suis guitariste à la base, mais il y avait le luxe d'être autodidacte et de ne pas lire la musique, c'est d'aborder un instrument avec le plus de naïveté possible.
Sans complexe.
Oui. J'ai pas de référent. Donc, j'ai toujours l'impression d'être un virtuose au piano, alors que je fais 3 notes qui à la guitare, je les aurais très, sachant un peu mieux ce que je fais, assez vite censuré.
Ouais.
Donc le piano, je l'ai appris un peu plus tard. Donc
Les fameux accidents.
Voilà. Donc les doigts, on les met un peu n'importe où, enfin pas n'importe où quand même, mais on a une forme de liberté qui permet de ne pas se censurer trop vite. Et le disque a été vraiment entre la guitare et le piano, et je m'amusais à les transposer, à les jouer sur les deux instruments pour le faire naître sous mes yeux avec les qualités que je peux avoir à la guitare et la naïveté que j'ai au piano.
Cet endroit où vous avez enregistré cet album, donc ces fameuses glacières, ça a été tour à tour un club de boxe semi-clandestin, une patinoire, une école de cirque, et donc finalement un studio d'enregistrement qui devait ressembler à quelque chose comme ça. Alors, évidemment plus ou moins, mais
comment
comment est-ce que vous avez transformé ce lieu hostile en studio? Comment est-ce que vous l'avez investi, cet endroit, pour
je rigole à moitié,
l'apprivoiser, j'ai envie de dire.
C'était un peu le son au début. C'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps à essayer de tuer cette réverb naturelle qui m'a enchanté le jour où je suis arrivé. Je me suis dit, ça va être génial, tu vas voir les chœurs des Beach Boys. En fait, c'est une plaie, c'est pas un cadeau du tout, la réverb. Vaut mieux ne pas en avoir et en rajouter, en effet. J'ai collé toutes les couvertures de déménagement que j'avais amenées avec moi en emballant le matériel. Je les ai collées au mur pour tuer un peu le son. Alors, ça faisait très joli. Esthétiquement, c'était très beau. Et puis j'ai trouvé un matin des panneaux acoustiques qui étaient complètement délabrés, qui sentaient la cigarette, qui étaient tout cassés. Je les ai réparés, j'ai mis ça autour de la batterie. Donc j'avais des espèces de ruses comme ça qui me permettaient de faire des foyers sonores où j'arrivais à peu près à maîtriser le son.
Donc cette histoire. Vous allez donner de très mauvaises idées aux producteurs qui nous écoutent en ce moment, vous savez ça.
Ouais. Mais de très bonnes aux jeunes gens qui ont envie de faire de la musique et qui ne savent pas où le faire. Absolument. A priori, débrouillez-vous. Ouais. C'est votre troisième album, le second, la titre Glow, était plus rock et, je cite, s'inspirer du monde du live et des concerts. Celui-ci est plus intime, plus proche de votre premier album, presque. Déjà un retour aux sources, dirait-on par raccourci. Comment est-ce que vous l'imaginez, celui-là, sur scène?
L'album de la maturité, non?
Ouais, c'est ça, presque.
J'ai essayé de tirer ce fil un peu qui m'a guidé sur tout l'enregistrement, qui est le fait de faire plus avec moins. Donc c'est vraiment le fameux less is more en anglais, mais je pars sur la route avec simplement un batteur qui m'accompagne. On limite les choses à l'essentiel. Je sais que j'ai une vraie jouissance et un vrai confort à devoir chercher des solutions en live assez rapidement. Et puis ça laisse pas le choix quand on est que deux sur scène. J'ai remarqué qu'en fait on est au-delà de 100%, on est à 110%, à 100%, on se donne à fond, on n'a pas le choix, sinon ça se voit. Ouais. Quand on est en groupe à 5, on peut passer une soirée où on fait un peu à moitié le boulot, ou pas que j'ai fait ça dans le passé, mais
non, c'est pas le genre,
pas du tout. Non, toujours focus, mais et du coup j'aime bien cette espèce de tension que ça crée à deux musiciens. On est aussi dans une fraternité assez évidente, en fait. On répète, tout va beaucoup plus vite. Et là on est très heureux. On a fait déjà quelques dates, c'est un vrai bonheur.
Eskeller, eh bien 16h31, c'est le titre du nouvel album de Rover, son troisième album qui est disponible et plus que recommandé, vous l'aurez compris, par Pop Pop Pop. On va continuer à en parler dans quelques instants de Eskeller, toujours 16h31, mais pour l'instant c'est le moment des pop news.
Finch, Tom Hanks est le rare survivant d'un phénomène solaire cataclysmique qui a transformé le monde en désert. Finch vit dans un bunker souterrain depuis des années, mais il n'y est pas seul. Il partage son quotidien avec son chien, Goodyear. Et Finch aimerait s'assurer que quelqu'un s'occupera de son fidèle compagnon après sa disparition, alors il a une idée.
You see, I'm developing something interesting. Giant leap of faith. Now, if you can speak, tell me something about you.
Robots must protect dog.
If we don't go before that storm hits, we'll die, all of us. As soon as you can walk, we're leaving.
One, two, one, two, one.
That's falling.
Et voilà donc un trio maître chien robot qui se lance dans un voyage périlleux dans un ouest américain désert. Finch de Miguel Sapochnik, vous savez, c'était lui qui était à la manœuvre sur la bataille des bâtards de Game of Thrones.
Oh, joli.
Gros réalisateur. Donc un film avec Tom Hanks, ce sera le 5 novembre sur Apple TV.
On avait adoré son premier long métrage aussi émouvant que Barré, Thunder Road, une raison de plus de l'aimer. On a donc hâte de voir le nouveau film de Jim Cummings intitulé The Beta Test. Il y incarne Jordan Hines, un agent hollywoodien à succès sur le point de se marier et qui reçoit une lettre anonyme l'invitant à une mystérieuse rencontre sexuelle.
A couple of weeks ago, I got a letter in the mail inviting me to a no strings attached sexual encounter in a hotel room. It's a pretty card. Looked official. I don't know. I was stupid. I went.
What? Dude, this is nuts.
Oh oui, c'est nuts, c'est tellement nuts que Jordan, après avoir cédé, se trouve prise au piège et c'est pas beau de mentir. The Beta Test de et avec Jim Cummings, ce sera le 15 décembre au cinéma.
Et après avoir fait des... mais aussi des... il y a quasiment 10 ans maintenant, les Lumineers sont de retour. Les Américains ont annoncé un quatrième album, Bright Side, et dévoilé un premier single du même nom.
I'll be your bright side, baby, tonight.
Le single est dispo et Bright Side, l'album des Lumineers, sortira le 14 janvier.
France Inter. Pop-pop-pop. Antoine Decaune.
Le chien de Tom Hanks.
Bravo.
Ah là,
je dis madame. Je dis madame.
Non, bah là, je dis monsieur pour l'imitation quand même.
Ah, je dis madame Roux. Je dis madame Roux. Très bien. Merci Charline. Rover, nous avons cité Bowie, les Beatles, mais il y a un autre artiste que vous aimez beaucoup, comme nous tous d'ailleurs, c'est Serge Gainsbourg. Alors, je vous propose un petit détour par l'année 69 pour écouter L'Anamour.
Aucun Bowie. Sous mon transat, je cherche en vain la portée exacte. Je cherche en vain le Brexit. Je chante pour les transistors. Ce récit de l'étrange histoire de tes amours transitoires. Bois dormant qui dort. Je t'aime et je crains de m'égarer. Et je sais me dégrader de pavots sur les pavés de l'amour. Tu sais ces photos de l'Asie que j'ai prises à 200 à ça. Maintenant que tu n'es pas là, mes hélas, c'est un ventilateur qui passe au ciel du poste de police. Je t'aime et je crains de m'égarer. Et je sais me dégrader de pavots sur les pavés de l'amour. Je t'aime et je crains. Sur les pavés de l'amour.
Serge Gainsbourg, cuvée 69, c'était L'Anamour, un titre qu'on aime beaucoup dans cette émission. Nous sommes en train de parler aujourd'hui avec Rover de son troisième album, Eskeller, à 16h37 je crois. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter. Ça vous fait de moins en moins rire ma vanne. Ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Ce son, c'est ce qui vous évoque la pop culture, Rover. En fait, c'est un son qu'on utilise, nous, hein, depuis la création de l'émission. Ah, mais qu'est-ce qui vous évoque?
C'est un son qui m'a à la fois glacé le sang et fasciné quand je suis allé voir au cinéma Retour vers le futur.
C'était avant les glacières, ça.
C'était avant les glacières. c'était un vrai choc. Je me souviens de ce son. Il m'est resté en fait très longtemps. Et quand la question m'a été posée, je sais qu'il m'est venu, il m'a sauté au visage. Ouais. Je pense que cette trilogie est très pop en soi. Il y a quelques décors. Il y a pas énormément de décors en fin de compte dans cette trilogie. Ils ont réussi. Enfin, il y en a quelques-uns, mais elle a une structure de BD. Il y a quelque chose de très slogan dans la manière dont c'est construit et qui nous fait voyager. Je sais qu'en gamin, ça m'a fait voyager. Il y avait quelque chose c'est comme ça que je définis la pop pour moi, en tout cas. Mm-hmm. Il y avait quelque chose qui était assez direct, assez frontal et qui permettait justement, qui laissait la place à l'imagination et à l'imaginaire.
Après ce retour vers le futur, enfin, retour dans le passé, revenons au présent, et parlons un peu donc d'Eskeller, 16h38.
Mais non, c'est pas possible.
Mais si, allez-y.
Alors, on le disait il y a juste deux secondes, dans notre sujet, si c'est la pop culture, il y a forcément un titre sur votre album qui nous a intrigués. I Held You Firmly Like Roger Moore, le comédien qui donne donc ce nom à ce titre. Pourquoi lui et pourquoi du coup ce contraste entre l'extrême douceur et délicatesse de votre voix, de votre musique et cette image, pour quand même bien le dire, du bonhomme un peu à l'ancienne? Fantasme ou provoque?
Un peu des deux. Il y a le qui d'autre pour accueillir quelqu'un dans ses bras que Roger Moore. Il y a quelque chose de très désuet, évidemment. Après, phonétiquement, ça colle exactement à la chanson quand je l'écrivais. Le nom revenait. Ouais. C'est très phonétique. Roger Moore, il n'y a pas plus cool comme nom et comme nom de famille, comme prénom et comme nom de famille. J'ai vite validé cette idée de m'accrocher à...
T'as marché moins avec Jean Lefebvre.
J'arrivais pas.
Orsim.
Jean Lefebvre. Donc j'ai pris Roger Moore. J'ai essayé, hein, mais... Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui... C'est la première fois que je mettais d'ailleurs le nom d'un comédien, enfin, ou de quelqu'un d'une
name dropping. C'est bien pour ça qu'on l'a relevé.
Ce que veut dire Charline, c'est que c'est pas juste aussi pour la beauté du nom ou la consonance, c'est que ça évoque un imaginaire.
Ça évoque un imaginaire, c'est quelque chose, comme je disais, d'assez désuet, mais d'un temps révolu aussi. Je pense que j'ai grandi quand même avec l'image de ces acteurs qui n'ont pas forcément quoi que ce soit d'admirable aujourd'hui, évidemment, mais j'aimais l'empreinte qu'ils ont eue quand même sur notre enfance, sur notre fantasme, sans nommer James Bond, mais il y avait quand même le James Bond de Roger Moore est assez incroyable. Quand on le regarde aujourd'hui, on a toujours un petit rictus parce que c'est toute une époque qu'il faut...
C'est votre préféré, le Roger Moore?
J'aime bien Roger Moore. J'aime bien Daniel Craig aussi. Je m'y suis fait, en fait. J'aime bien sa modernité. Mais Roger Moore, il y a toujours un...
Ouais. Personne me le demande, mais je le dis quand même. Moi, j'aime bien Sean Connery. Moi.
J'aurais pu le parier. J'aurais pu le parier.
Sean Connery, ouais.
J'aime beaucoup Sean Connery.
Je crois que je suis sûr.
Pour rester dans cette pop culture, la pochette de l'album sur laquelle vous posez rappelle, évoque un petit peu le lot de David Bowie. Je sais, on vous l'a souvent dit, Rover. C'est quoi? C'est pareil. C'est une référence. C'est quelque chose qui passe par votre esprit.
Je vais être très honnête, j'ai pas du tout remarqué. Je sais que ça fait bizarre. Je l'aurais assumé si ça avait été dans mes références au moment de choisir la pochette. Mais
pas déposé le brevet du col roulé.
Non, c'est sûr, ni du profil. Mais effectivement, il y a quelque chose qui peut-être dans l'inconscient a fait que cette photo-là a surgi. C'est une photo qui a été faite par un ami en sortant de la glacière un jour. Où il m'a dit bouge pas, tac, il a fait le cliché. Donc
d'où le col relevé.
D'où le col relevé. Voilà, la bruine belge. Voilà.
Alors, il y a chez vous, ou en tout cas peut-être c'est ce que j'y projette ou ce qu'on y projette, une forme de romantisme hyper assumé, un peu exalté à l'image de cette reprise assez sublime, je dois dire, que vous aviez livrée il y a quelques années sur le plateau de Monte-le-Son sur France 4. Wuthering Heights de Kate Bush. Alors je vous le dis, c'est absolument gratuit, j'adore cette reprise, je ne m'en lasse pas, donc c'était une occasion de la caler. Mais est-ce que le romantisme, y compris en musique, c'est facile à conjuguer avec l'époque?
Ah, je pense, oui. Moi, je sais que dans le romantisme, tout n'est pas bon à prendre, dans le romantisme. Il y a des choses un peu encombrantes, mais il y a un ingrédient principal qui est l'émotion. Alors, je sais que c'est récurrent. Tout le monde parle de l'émotion en musique, en cinéma, dans l'art ou dans la vie. Moi, c'est un carburant qui se doit d'être là. Je le provoque en m'isolant, je le provoque en me mettant dans des situations un peu plus déroutantes, en me délogeant d'une zone de confort. Le romantisme est en moi, je peux rien y faire. J'arrive pas à faire autre en amour, en amitié, avec le choix de mes guitares, de mes voitures, n'importe quoi en fait, le choix d'un bouquin, et c'est réellement une zone de bien-être. Il y a toute une part du romantisme qui me plaît en fait.
Non, mais là, ce qui est très étonnant, c'est que pour le coup, vous êtes invité sur le plateau d'une émission de télé, on vous demande une reprise. Je pense qu'ils sont assez rares les gens qui vont dire je vais reprendre Kate Bush, oui. Cette chanson-là en particulier, quoi.
On remettrait un petit peu de Kate Bush. Je vais reprendre Kate Bush.
C'est vrai. Au-delà du fait que la chanson soit merveilleuse, il y a une... je sais pas comment, je me souviens plus comment ça s'est fait. Je me sentais bien avec le titre à ce moment-là, et puis il a effectivement une intemporalité, encore une fois.
Mais en fait, vous êtes extrêmement sentimental.
Un peu trop.
Je vous vois qui rosissait, même en
l'avouant. Oui, c'est vrai.
Mais non, c'est bien, c'est une qualité, c'est pas du tout un défaut.
Oui, un peu hypersensible sur plein de choses, mais j'ai essayé de le tourner à mon avantage. Mm-hmm.
Quel est le sujet sur lequel vous êtes le plus sensible?
Augustin. Je Bah, celui qu'on vient d'aborder, je pense ça, c'est, ça, c'en est un. C'est pour ça que je rougis, c'est peut-être parce que c'est...
Mais c'était en aucun cas une critique. Hein. Ah, je trouve que justement, cette forme de romantisme, elle est pas... Enfin, je trouve ça pas du tout dans l'air du temps. Et je trouve ça au contraire très bien. Et c'est pour ça que je posais la question de savoir si c'était facile à conjuguer aujourd'hui, quoi. C'est pas...
Bah, c'est aussi difficile que de faire 2 mètres et plus de 100 kilos. Mmh. On vit avec et au bout d'un moment, on se rend compte que moi, ça me protège de beaucoup de choses et ça me permet d'apprécier le quotidien avec une forme de panache et de douceur, en tout cas. Ça adoucit les angles. Donc, mais je pense que ça va revenir. Hein. Je pense que c'est dans chaque humain. On est tous, il y a beaucoup de gens qui l'ont juste chassé parce que ça fait bien, mais c'est en nous. Mmh. Ouais.
Et c'est ce qui nous touche peut-être tellement dans votre musique, dans votre attitude, dans votre démarche.
Peut-être, oui.
Ouais. Je vous le dis très certainement. En parlant de conjugaison de l'époque sur cet album Rover, vous utilisez aussi l'autotune, mais que nous avons découvert, nous l'utilisons nous-mêmes de la même manière, soit avec une appli gratuite sur nos téléphones. C'est bien ça ?
Évidemment, il n'y a que comme ça que vous utilisez l'autotune.
Alors je m'en sers moi ici parfois pour poser des questions.
Rover, vous qui êtes un expert, que pensez-vous de mon utilisation de l'autotune?
Robotique et bizarrement émouvante aussi. Moi je suis encore
même ça vous émeut.
Je vais paraître un peu
c'est extrême, marrant parce que moi j'en dis gênant, mais en fait vous vous dites.
Vous avez un mauvais fond, Charlie. Je commence à
se voir la poésie dans tout. Non, mais voilà. Moi, je l'ai utilisé pareil, avec un peu de dérision au début. Et puis j'y ai vu le fait de ne pas entendre sa voix m'a permis justement de chanter différemment. Ouais. Et de ne plus être autocritique et il en est né une chanson que j'ai enregistrée sur un 4-piste cassette. J'avais branché le téléphone avec cette application gratuite, un hasard comme ça qui a fait que la prise m'a hanté pendant plusieurs jours et j'ai décidé de la mettre sur le disque.
Et vous utilisez ça avec beaucoup de nuances et de grâce, ce fameux autotune. Bon, tout ça c'est dans SQLR, 16h46. Non mais 16h46, ça veut dire que c'est l'heure de votre pop-list, mon cher Rover. Un livre, un film, une musique, une série, voilà de quoi nous allons parler. Maintenant, votre livre du moment, Rover, c'est Une sacrée mamie. Scénarisé par Yoshishi Shimada et dessiné par Saburo Ishikawa. Charline, merci de me féliciter. Je ne me suis pas pris
Antoine.
Les pieds
vraiment.
En prononçant ces deux noms compliqués. De quoi ça parle ?
Akihiro est un jeune garçon qui vit à Hiroshima avec sa mère et son frère. Il est confié du jour au lendemain à sa grand-mère qui habite dans la petite ville de Saiga. Il est d'abord triste évidemment de quitter sa famille et un peu effrayé de se retrouver toute seule avec une vieille femme à la campagne. Mais comme le titre de la série le dit, c'est une sacrée mamie.
Alors Rover, auriez-vous la gentillesse de nous en lire quelques bulles s'il vous plaît ?
C'est assez flou pour vous dire la vérité. Et j'ai pas mes lunettes.
Vous voulez les miennes ?
Bah, j'oserais pas. C'est peut-être, c'est pire. Mais je peux vous résumer un peu ce qui m'a ému dans cette série. C'est la première fois d'abord que je me plongeais dans un manga. J'y suis tombé un peu par hasard en feuilletant le premier épisode et ça m'a accroché réellement au sens propre. C'est un mélange de y a énormément de philosophie dedans. Ça m'a aidé dans le disque, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Mm-hmm. Et il m'arrive de m'en refeuilleter un le soir comme ça. Donc c'est un rapport à la bande dessinée comme je l'aime et avec beaucoup d'intelligence, énormément d'émotions, énormément. Là, ça regorge de romantisme, d'émotions et de subtilité. C'est fait avec élégance, c'est très bien dessiné. Et puis je me rendais compte qu'à chaque page, j'avais presque une dose d'inspiration qui pouvait parfois ne pas exister dans certains romans.
Donc, le livre en question, c'est Une sacrée mamie de Yoshishi Shimada et Saburo Ishikawa.
Félicitations Antoine.
Merci Charline. Rover, le documentaire que vous attendez en ce moment, c'est The Beatles Get Back de Peter Jackson. C'est un documentaire dont la sortie est prévue cet automne. Charline, c'est peu dire que nous sommes plusieurs à l'attendre. Ce Get Back fait bouillir notre impatience.
60 heures d'images inédites, plus de 150 heures audio, tournées enregistrées en janvier 69 par Michael Lindsay Hogg. Mais Peter Jackson a décidé lui d'en faire autre chose que les 80 minutes exploitées par Lindsay Hogg et qui montraient les déboires du groupe en train de se disloquer. Selon Peter Jackson, ouvrez les guillemets, la réalité est très différente du mythe. Ça devait être un film, mais The Beatles Get Back sera diffusé en 3 parties les 25, 26 et 27 novembre sur Disney+.
And now your host for this evening, The Beatles.
George was a man.
A bit faster, do you think?
A bit faster.
1, 2, 3, 4.
Thank you.
last. Giorgio left his home in Tucson, Arizona, bought some California grass.
Fameux Get Back de Peter Jackson, qui sera donc diffusé le 25, 26 et 27 novembre sur Disney, le choix de série de Rover. Mais c'est dommage, Rover, parce que le 25 novembre, vous serez en concert à Tours, le 26 à Laval, le 27 à New York. Vous maintenez ces dates ou vous songez à annuler ?
J'hésite. Ouais.
Pourquoi est-ce que vous l'attendez aussi impatiemment, ce Get Back ?
J'étais ça va faire récit de guerrier encore une fois, mais j'avais trouvé en version pirate quand je vivais à Beyrouth, au souk, du montage de Lindsay Rock.
J'adore cette phrase.
Ouais, c'est classe, c'est bien ça. Version pirate. Et je l'avais dévoré des milliers de fois. Je l'ai encore d'ailleurs, cette version. Et il est effectivement assez déprimant. En plus, c'était une qualité très médiocre, donc c'était assez sombre. On n'a pas beaucoup d'images de studio des Beatles. Les fans de Beatles dont je fais partie sont un peu en manque. Et puis on dévore ce qu'il a existé avec ce projet qu'ils avaient de filmer l'enregistrement de cet album, L'été de Bee, qui est ce qu'il est, avec plein de mix différents et puis qui signe un peu la fin d'un groupe mythique. Donc c'est d'avoir ce nouveau montage, d'avoir la technologie qui permet de rendre ces images un peu plus contemporaines et voilà, en tant que évidemment fan des Beatles, mais aussi fan des images de studio et du matériel.
Il semblerait, de ce qu'on en a perçu jusqu'à maintenant, que en fait la relation entre McCartney et Lennon n'était pas si catastrophique.
Exactement.
Ouais. Ça.
Ouais, c'est ce que Jackson sous-entend.
Wait and see. Rover, la série que vous attendez le plus, un peu comme nous tous d'ailleurs ici, c'est celle-ci. Aucune. Aucune série. Pourquoi ce nom choix ?
Get Back fera office 2. Hein.
J'ai pas encore eu le pli de la série. Moi. Je m'en méfie peut-être, en fait.
Dans votre cave glacée, là, Rosset, non, vous risquez pas de l'avoir.
C'est ça, il manquait Wi-Fi. Donc, non, j'ai pas encore été accro à une série et je vois les effets à la fois addictifs et néfastes et pervers chez les autres. Donc.
Bon, restez comme vous êtes. En revanche, votre morceau du moment, c'est Moon de Kanye West de l'album Donda. C'est un morceau que je vous propose d'écouter pas plus tard que tout de suite.
Strapping we up, never forget all the memories. Sitting, I sit by my cup, thinking I should be a better me. Truly, I'm blessed from the start. So much to say in these melodies. Stare at the sky, the moon singing sweet. Oh my God, such a sweet moment. Angels, they say I'm not ever weak. Such a lonely boy. Heaven knows I might never sleep. Trouble in my soul. Hey, I've been praying. Life can be training. Oh, hey, we're late. Try and keep falling. Oh, I'm ashamed. Hated what I will see, and nobody knows. So I go.
Don't leave so soon. Don't leave so soon.
Kanye West dans Pop 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 sur France Inter. C'était Moon, extrait de l'album Donda, et c'était le choix de Rover, notre invité aujourd'hui. Alors maintenant, on va dire deux mots quand même de ce morceau de Kanye West. Qu'est-ce qu'il a de si particulier qui vous bouleverse?
C'est un artiste curieux parce que j'aime pas tout, mais il a toujours une pépite ou deux comme ça qui traîne dans ses disques, et c'est souvent des down-tempo, des chansons assez douces comme ça qui... Ouais. Pour la petite histoire, je vais faire mon compteur d'anecdotes, mais j'écoutais l'album en Bretagne sur les routes bretonnes, et j'ai mis l'album par curiosité en fait. Et ce titre a correspondu exactement au scénario que j'avais devant moi en conduisant. Il y a parfois comme ça des morceaux qui collent au spectacle que l'on a. Et à chaque fois que je le mets, il y a une émotion qui revient, il y a un confort d'écoute. C'est un morceau très intelligent dans sa composition, qui casse un peu les parfois certains réflexes qu'on a dans le hip-hop ou dans le rap. Et je le trouvais assez ovniesque dans son approche, et assez brillante comme peut l'avoir parfois Kanye West, et même très souvent sont des traits de génie comme ça, des choses assez fulgurantes. Je sais que sur ses albums précédents, il y avait aussi un titre comme ça qui m'avait rendu assez perplexe. Mmh.
Assez perplexe. Ouais, ouais. Vous vous rendez compte que vous venez d'établir une passerelle entre Kanye West et la Bretagne, donc?
Simplement.
Les Côtes d'Armor en particulier.
C'est à l'ouest.
Ah, donc, Kanye Braise, donc du coup.
C'est Kanye West, l'ouest le vrai. <C'est>... Non, mais j'imagine. Ouais. Je vous imagine très bien sur une petite route bretonne. Oui,
ouais. Ouais, j'aime énormément.
Mais je dois dire que l'anecdote, j'étais en Bretagne en voiture, tape tout de suite un peu moins que j'étais dans un souk à Beyrouth.
C'est sûr, c'est pas sûr.
Ça fait moins la ville.
Attends, c'est Rover, hiver. Bon, Rover, je parlais tout à l'heure d'un endroit qui pourrait vous plaire pour faire de la musique, c'est ma cave.
Ah oui.
Suivez-moi, je vais vous la faire découvrir. Ça fait longtemps.
Incroyable.
Attention à la tête. Alors, c'est 7 mètres carrés. Évidemment, ne vole pas votre glacière de 250 mètres carrés. Mais bon, ça passe, non?
Ça passe, mais c'est humide.
C'est humide, ça goûte.
Ça résonne, si.
Ça résonne un petit peu. Vous n'avez pas peur des rats?
Pas encore, non, j'en connais pas.
C'est ce genre d'endroit un peu clos, comme ça, qui goûte, ça vous inspire quoi?
La musique, moi. J'ai envie de faire des chœurs, j'ai envie de chanter. Là.
Ah oui, c'est vrai. Vous pourriez travailler ici, composer ici, dans ma cave à moi?
Elle est petite. Elle est petite, mais
vous voulez la tester pour l'acoustique?
1, 2.
Vas-y.
To this tree of all the things we have, I can hear it in your voice, I can feel it in your heart.
Ces petits rats qui sont en randonnion en train de nous écouter, enfin de vous écouter. Mais... Merci Raphaël. Oh bah pardon, Rover. Allez, on remonte, venez avec moi. Oh, c'est quand même mieux au sec, hein.
Bah, je sais pas, moi je suis resté ici, je vous attends.
Oui,
je sais pas
ce que vous avez fait. Ça vous apprendra à vous couvrir la prochaine fois au lieu de venir en t-shirt dans ce studio. Merci infiniment.
C'est un plaisir.
Mon cher Rover, je rappelle que votre troisième excellent album, Escalair, 16h57 maintenant, est disponible, et que vous lancez une grande tournée à partir de jeudi. Les 8700 dates sont à retrouver sur la page
sur la toile
de l'émission. Merci d'être venu dans ce studio.
Merci
Rover.
Beaucoup. Merci.
Et merci Charline. Merci à demain. Et merci aussi à toute l'équipe de Pop Pop Pop, y compris à Michel Bézikian, qui était encore à la technique aujourd'hui. Demain, dans Pop Pop Pop, l'humoriste Monsieur Fraise devient Madame Fraise et vient nous expliquer sa métamorphose. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets, 3615 Pop Pop Pop.